Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe du vendredi. Bonsoir à tous les cinq.
Salut, bonsoir Anne-Elisabeth.
Ils m'agacent les deux là, c'est pas possible. Marion, votre choix de l'actu du jour.
Lynn Renault et son énergie contagieuse qui sera à l'affiche d'un téléfilm haletant demain sur France 3. Elle nous parlera de ses combats.
Mohamed, votre story du jour.
Elle a suscité l'admiration du monde en couvrant la prise de pouvoir par les talibans à Kaboul. Elle s'exprime en exclusivité ce soir. C'est une interview de Clarissa Ward, la journaliste de CNN.
Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Est-ce que vous savez comment les Français nomment leurs chiens? Ils leur donnent des noms d'aliments. Le podium, je vous donne juste le nom le plus donné en 2020, Riette.
Ok.
On va explorer cette enquête.
Grosse enquête ce soir dans le 5 sur 5. Patrick, votre édito du jour.
À quoi joue Poutine? Que veut-il face à l'Europe?
C'est une question qu'on posera également à Bernard Guetta, l'eurodéputé qui est ce soir notre invité. Pierre, votre œil ce soir.
Un œil en forme d'édito, pleut-il vraiment plus en Bretagne? Je fais un cash investigation.
Bah oui, parce qu'on vous propose une spéciale Bretagne ce soir après 20h avec Alan Stivell, Yves Coppens, Laurent Dutch, tous les trois amoureux de la péninsule armoricaine. Oh, Patrick n'est pas content, ça démarre mal, mais c'est le dernier jour de la semaine.
Ça porte bonheur.
Oui, ça porte bonheur, exactement, d'aussi mal démarrer. Et un chef breton originaire de Dinan au Fourneau ce soir, Pierre Chaumet, une galette revisitée est au menu, cher
bonsoir,
Pierre.
Bonsoir, bonsoir. Oui, exactement, on va faire une petite galette revisitée, on va vraiment rester dans le thème de la Bretagne, mais ayant habité 6 ans à Bangkok, on va venir un petit peu la booster avec des saveurs thaïlandaises.
Voilà, c'est Rennes plus Bangkok.
Dinan plus Bangkok.
Dinan plus Bangkok égale galette revisitée. Mais d'abord, j'allais dire la galette de Patrick Cohen dans l'édito. La crêpe complète de Patrick Cohen. Qu'y a-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? La Russie multiplie agressions et provocations à l'égard de l'Europe.
Le tableau d'ensemble est impressionnant. En quelques semaines, Poutine a soutenu, voire accompagné son protégé biélorusse dans son opération de transport de migrants à la frontière polonaise. Il a relancé la bataille de l'espace en pulvérisant 1500 nouveaux débris en orbite autour de la Terre. Il continue d'avancer ses pions au Mali via les mercenaires du groupe Wagner. Il a massé des troupes à la frontière ukrainienne, 100 000 soldats avec des chars. Et il vient de mettre fin au dialogue avec la France et l'Allemagne sur ce conflit en publiant les courriers confidentiels échangés entre ministres, ce qui est contraire aux règles et usages diplomatiques et s'aborde toute tentative de compromis. Comme le dit le ministre Jean-Yves Le Drian aujourd'hui dans Le Monde, il n'a ni tabou ni limite.
Mais quelles sont ses intentions?
Alors on sait ce qui le motive, une hostilité viscérale au projet européen. Est-ce qu'il y a un plan? Une stratégie, je laisserai répondre tout à l'heure Bernard Guetta, mais on peut mesurer l'effet produit par toutes ces initiatives. Un échec pour Moscou, l'Europe n'a pas cédé au chantage biélorusse, elle a fait bloc derrière la Pologne et va durcir ses sanctions contre le régime Loukachenko. Des succès, la question migratoire est revenue dans le débat public européen, les populistes s'en sont emparés, la Pologne va construire un mur à sa frontière. Et puis Angela Merkel a téléphoné deux fois au dictateur Loukachenko, ce qu'aucun Européen n'avait fait jusqu'ici. L'Occident, qui le traitait en paria, se retrouve contraint de négocier avec lui. Enfin, sur l'Ukraine, rien ne bouge. La région du Donbass est toujours sous le contrôle des séparatistes pro-russes. Un dommage collatéral, enfin, l'embarras de tous les admirateurs de Poutine, notamment en France, où une demi-douzaine de candidats à la présidentielle continuent de trouver que la Russie n'est pas le problème, mais la solution.
La Russie est tout de même l'objet de sanctions et d'une vaste réprobation internationale.
Alors la réprobation, je crois que Poutine s'en fiche comme de sa première datcha. Les sanctions, nettement moins. La mauvaise nouvelle de la semaine pour Moscou, c'est le nouveau retard d'exploitation du gazoduc sous-marin Nord Stream 2 qui relie la Russie Russie à l'Allemagne et qui va accroître la dépendance européenne au gaz russe. Le chantier est terminé depuis 2 mois, mais le régulateur allemand vient de suspendre sa certification pour des raisons juridiques et le robinet de gaz reste fermé. Quant aux critiques de l'étranger, Moscou les tourne comme chaque fois en dérision et se pose en victime. Voyez comment la chaîne russe RT France commente la presse française.
Trêve de plaisanterie, force est de constater que Vladimir Poutine n'a pas les faveurs des médias mainstream français. Et c'est un euphémisme. Le patron du Kremlin est accusé de vouloir déstabiliser la terre entière. Rien de moins et pas seulement.
Les médias mainstream, c'est nous. Et l'homme déguisé en diable, c'est le véritable patron de RT France. Et pendant ce temps, au milieu de ce fracas international, Vladimir Poutine aggrave en silence sa dérive dictatoriale. Le régime ne tolère plus désormais aucune voix critique. Les derniers médias libres sont bâillonnés. Navalny est aux oubliettes. On en parlait il n'y a pas longtemps, soumis à une torture psychologique qui vise à le briser. Ses partisans sont traqués. Les prisonniers politiques sont presque aussi nombreux qu'à l'époque soviétique. Et voilà que Mémorial, la plus vieille organisation de défense des droits de l'homme du pays, symbole du mouvement démocratique lancé au crépuscule de l'URSS et menacé à son tour de liquidation, ni tabou ni limite.
Bonsoir Bernard Guetta.
Bonsoir.
Député européen du groupe Renew Europe, c'est le troisième groupe le plus important à Strasbourg. Vladimir Poutine, ni tabou ni limite, qu'a-t-il dans la tête, Bernard Guetta? Quel est son plan?
Je vais vous surprendre en vous disant qu'à mon avis, cet homme a peur. Cet homme a peur parce que, oui, parce qu'il voit que l'Union européenne est en train d'entrer dans le troisième moment de son histoire, c'est-à-dire la tentative de construction d'une union politique appuyée sur une défense commune, parce que pour la première fois depuis son accession au pouvoir, il a un véritable opposant, certes en prison, certes affreusement, horriblement maltraité en prison après avoir été victime, on s'en souvient, d'une tentative d'empoisonnement, puisque je parle bien sûr d'Alexeï Navalny, mais il y a aujourd'hui un opposant qui est dans les prisons et que même Vladimir Poutine devrait bien réfléchir avant de tenter d'assassiner une deuxième fois. Et puis, il y a une troisième réalité, c'est que quand on regarde les sondages, il y en a en Russie, et il y a un institut, l'Institut Levada, qui est parfaitement crédible. Eh bien, la popularité de M. Poutine dégringole régulièrement. Alors, elle est toujours beaucoup, pas beaucoup d'ailleurs, elle est toujours plus élevée que celle de la plupart des dirigeants des démocraties, mais par rapport à ce que ce fut il n'y a pas si longtemps, eh bien, il y a une vraie dégringolade. Pourquoi cette dégringolade? Pour une raison très simple, c'est que le niveau de vie régresse, qu'il y a une crise économique en Russie, et surtout que quand M. Poutine est arrivé au pouvoir, il y a plus de 20 ans, souvenons-nous, il y a plus de 20 ans, eh bien, il promettait de venger l'honneur bafoué de la Russie. Mais aujourd'hui, l'honneur bafoué de la Russie, mais c'est quoi l'honneur bafoué de la Russie? Aujourd'hui, la plupart, les Russes de moins de 40-45 ans, ne savent plus ce qu'a été l'Empire. Ils regardent l'Ukraine, ils regardent la Géorgie, comme un Français regarde l'Algérie ou comme un Britannique regarde l'Inde.
Il a annexé la Crimée, il a agrandi un peu son empire.
Oui, il a annexé la Crimée. Ça lui avait donné un rebond de popularité au moment où il a annexé la Crimée, parce que les Russes disaient à l'époque, mais écoutez, c'était notre Côte d'Azur, ce qui était vrai d'ailleurs. La Crimée avait été la Côte d'Azur de la Russie, mais ça avait été aussi un territoire turc. On ne va pas refaire l'histoire. Oui. Mais en tout état de cause, 6 ans après l'annexion de la Crimée, l'effet Crimée, il est retombé comme un soufflet. Et cet homme, je vais vous surprendre encore une fois peut-être, il est entré dans ce qu'il faut bien appeler une fin de règne. Tout simplement parce qu'il a presque mon âge. Un an de mois,
c'est-à-dire... Vous n'êtes pas en fin de règne, Bernard.
Si. On est même, je dirais pas pire, mais en tout cas, on est plus près de la porte que de l'augmentation. Et bien sûr que oui. Et en plus, regardez-le, vous le trouvez en très grande forme, moi pas. Et en tout état de cause, biologiquement et politiquement parlant, c'est le début d'une fin de règne. Alors quand je dis fin de règne, c'est pas 6 mois. C'est sans doute même pas 2 ans ou 3 ans. Non, c'est 5-7 ans, personne ne sait. Mais c'est la fin.
Et puis, il y a eu l'échec. L'Europe n'a pas cédé au chantage biélorusse, le rappelait Patrick. Or, il pensait vraiment qu'il pourrait déstabiliser le bloc européen.
Oui, complètement. complètement. Il a pensé, Patrick le rappelait à très très juste titre, il a pensé que dans la mesure où il y a des désaccords qui persistent et qui sont profonds sur la politique migratoire, il allait pouvoir peut-être faire exploser, en tout cas diviser, perturber très très gravement l'Union européenne. Mais il a oublié une chose, c'est que aussi divisé qu'il soit sur la question migratoire, les dirigeants européens ne sont pas forcément des imbéciles et qu'ils ont parfaitement compris, tous, sans exception. Sans aucune exception, même pas M. Orban, mais non, sans aucune exception. Quels que soient leurs a priori, leurs choix politiques, excusez-moi, eh bien, ils se sont parfaitement compris que ce n'était pas une crise migratoire, mais une provocation organisée. Parce que ces migrants, ils ne sont pas arrivés tout seuls. On est allé les chercher en les leurrant, en leur disant, voilà, vous allez arriver à Minsk. Et puis, vous savez, la frontière polonaise, elle est juste à côté de Minsk. Juste à côté de Minsk, tu parles. Bon, bref. Et quand vous arrivez à la frontière polonaise, ben, c'est très simple. On vous accueille avec des fleurs et des loukoums et vous partez pour l'Union européenne, puisque la Pologne est déjà l'Union européenne. Eh bien, non, ça n'a pas marché.
Mais est-ce qu'il faut s'obstiner à négocier avec lui, qui est un opposant hostile au projet européen? Est-ce qu'il faut continuer à dialoguer avec lui?
Écoutez, il y a deux choses. Premièrement, oui, il faut dialoguer parce que il est le président, c'est comme ça, et c'est le pouvoir exécutif, et on ne peut pas ignorer tout simplement la Russie pour des questions de géographie, de puissance militaire, essentiellement militaire d'ailleurs, beaucoup plus qu'économique. Mais d'un autre côté, ce dialogue, nous le savons bien, enfin, je le crains en tout cas, ne débouchera pas sur grand-chose. Ne débouchera pas sur grand-chose parce que tant que M. Poutine sera au pouvoir, il n'y a pas grand-chose à espérer de lui. En revanche, le jour où on entrera dans le post-poutinisme, qui arrivera forcément, je veux dire, tout le monde est mortel, même le communisme était mortel, donc M. Poutine le sera a fortiori. Le jour où on entrera dans le post-poutinisme, on va découvrir ce que chacun peut voir quand il va à Saint-Pétersbourg, Moscou, comment s'appelle Gorky aujourd'hui, je ne sais plus, enfin bon bref, les grandes villes, les grandes villes de la Russie, que la jeunesse urbaine, la jeunesse, enfin, encore une fois, moins de 45 ans, russe, mais ressemble à s'y méprendre psychologiquement, physiquement, dans le vêtement, c'est très frappant,
dans les habitudes de vie.
Dans les habitudes de vie, dans les goûts culturels, c'est très très important aussi, puis ils parlent tous en anglais, par parenthèse, ressemble fort... incroyablement à la jeunesse de Paris, Berlin, Amsterdam ou Stockholm. C'est-à-dire que la Russie, et on va le redécouvrir, est historiquement et culturellement un pays européen, en ce sens qu'elle appartient évidemment au continent et à la civilisation européenne, mais qu'en plus, la majorité écrasante de sa population active aspire au modèle européen et certainement pas à l'enfermement avec la Chine, auquel M. Poutine la condamne. Et regardez, les plus grandes fortunes russes, d'anciens malfrats, les plus grandes fortunes russes aspirent à quoi ? À marier leurs fils et leurs filles avec les enfants Agnelli, Rockefeller, le Gotha occidental.
C'est ça votre modèle d'intégration.
Ça compte formidablement. Certainement pas avec la fille ou la fille de M. Xi Jinping. Maintenant, prenez les classes moyennes. Alors là, c'est beaucoup plus. On va lui décrocher son sourire à Patrick. Là, c'est beaucoup plus important, évidemment. Mais le premier point est très significatif. Eh bien, les classes moyennes urbaines, elles vont où en vacances? Vous les voyez, en tout cas, on les voyait avant le Covid, et on va les voir après le Covid, s'il y a un après-Covid, ça, je ne sais pas. Mais elles vont en Europe, évidemment. Et elles vont en Europe beaucoup plus qu'aux États-Unis. C'est très intéressant. Touristiquement parlant, pour les vacances, on se sent bien où ? En France, en Italie, en Allemagne, etc.
Marion.
Depuis lundi, c'est à vous, est en Pologne pour couvrir la crise à la frontière biélorusse. Dans les bois, proches de la frontière, Eban Reiss et Audrey Payas ont pu trouver des traces du passage de migrants qui se cachent pour échapper aux gardes frontières avant de rejoindre l'Allemagne. Ils ont également rencontré des associations qui leur apportent une aide matérielle. Et hier, nous diffusions ces images marquantes de l'enterrement d'un migrant, probablement mort de froid, que des musulmans polonais ont voulu honorer. Ils l'ont enterré lors d'une cérémonie religieuse. Il faut savoir qu'à la frontière, les autorités polonaises ont créé un corridor de 3 km interdit aux journalistes et aux ONG. Notre équipe a tenté de s'en approcher.
Dzień dobry. Do you speak English? Just a bit?
Nie, nie mogę. I don't speak Germanic.
Just why we cannot go there? To Kuznica.
Nie, to z uwagi na stan wyjątkowy, jest to strefa niedostępna dla mediów.
La situation aujourd'hui est encore très tendue. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 100 migrants ont été pris en train de passer cette frontière polonaise alors que le gouvernement n'arrête pas de communiquer en disant qu'elle est totalement scellée.
Voilà, la police aux frontières estime donc de son côté la situation maîtrisée. Et pour qu'elle soit encore plus maîtrisée, les autorités polonaises ont annoncé la construction à venir d'un mur dont ils sont très fiers.
Na granicy polsko-białoruskiej w najbliższych tygodniach, jeszcze w tym roku, rozpocznie się budowa bariery. Bariera będzie rozstawiona na odcinku granicy o długości 180 km. Mamy nadzieję, że ta sytuacja się poprawi. Na pewno zdecydowana postawa polskich służb granicznych, polskich służb sprawiła, że Białoruś musiała zmienić taktykę.
Voilà, hier, Minsk a affrété un avion avec 431 migrants irakiens à son bord, direction Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak. Vous pensez que c'est la Pologne qui a fait changer la stratégie biélorusse ou c'est l'Union européenne ?
Non, c'est évidemment l'Union européenne, c'est-à-dire la volonté ferme de ces 27 États membres de ne pas céder au chantage et à la provocation, non pas d'ailleurs de M. Loukachenko, parce qu'elle a été organisée par M. Poutine et M. Loukachenko n'a été qu'un instrument dans cette affaire-là, un instrument évidemment essentiel, mais politiquement parlant, qu'un instrument. Non, c'est la volonté, on en parlait tout à l'heure, la volonté de l'Union européenne, de comprendre ce à quoi elle avait affaire. Pas une crise migratoire, une provocation politique. Et qu'est-ce qu'a été la réponse lundi dernier déjà ? Nous sommes vendredi soir. Lundi dernier déjà, les ministres des Affaires étrangères des 27 se réunissaient à Bruxelles et unanimement, j'insiste, unanimement, ont décidé d'imposer de nouvelles sanctions au régime biélorusse. Et M. Loukachenko est aujourd'hui mal parce qu'il a cru à un moment donné pouvoir menacer toute l'Union européenne. Attention, le gaz russe qui passe par mon territoire, je vais le couper. Ah mais il ne l'avait pas dit que cinq minutes après, M. Poutine lui-même dit « mais non, absolument pas ». Pourquoi ? Parce que M. Poutine est un fournisseur et que M. Poutine a évidemment besoin des rentrées d'argent que lui procurent les exportations de gaz. Et donc il n'est pas question pour lui de mettre en doute la crédibilité de la Russie comme fournisseur. Au moment même où il place tellement d'espoir dans l'ouverture du gazoduc, le fameux gazoduc Nord Stream 2, qui devrait déverser à flot le gaz russe sur l'Union européenne, et principalement l'Allemagne, mais enfin en vérité sur toute l'Union européenne, eh bien si son petit copain, M. Loukachenko, couper le gaz, mais à ce moment-là, c'eût été un argument formidable pour les adversaires de Nord Stream 2. Vous voyez bien, il faut surtout pas devenir dépendant, plus encore que nous le sommes, du gaz russe. Donc tout de suite, vous voyez la contradiction dans laquelle il est pris, cet homme. Je vous disais tout à l'heure, il a peur, il est dos au mur, etc. Et donc il est agressif et il va l'être de plus en plus. Cet homme va être de plus en plus dangereux parce que la peur est mauvaise conseillère. Mais en même temps, il ne peut pas faire n'importe quoi parce que il s'amuse à couper les robinets. Ah oui, ça serait très embêtant pour nous s'il coupait les robinets. Mais ça serait beaucoup plus embêtant encore pour lui.
Bernard Guetta, ce mur à la frontière polonaise, c'est une solution pour l'instant acceptable. Une fois qu'il sera construit, il le sera. Ou le symbole d'une Europe emmurée est trop vilain ?
Oh, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une pure et simple imbécilité. Mais vraiment, c'est une imbécilité. Il y a 3000 personnes qui ont été amenées, hein, pas qui se sont ramenées toutes seules. Il y a 3000 personnes à la frontière, Il y en a 7000 en tout dans le pays.
Oui, à Minsk, il y en a plus.
C'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais à la frontière polonaise même, il y a 3000 personnes. Et en tout, 7000. Et on va construire, les Polonais vont construire un mur de 240, 50 km, enfin quelque chose comme ça, ouais, à la louche, je ne me souviens plus, de 5 mètres de haut avec l'électronique et le machin. C'est complètement ridicule, c'est complètement ridicule. Et puis deuxièmement, alors là j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on pense que c'est la Pologne, avec ses batailles, avec solidarité, avec son courage, avec son innovation intellectuelle et politique, qui a fait tomber le mur en Europe, et ce serait la Pologne qui irait reconstruire un mur en Europe. Mais consternation des consternations. D'abord, c'est...
On parle du mur de Berlin, je...
Oui.
Ah, pardon, excusez-moi.
Autant le préciser, le mur de Berlin, effectivement, l'Europe s'est construite contre le rideau de fer et le mur de Berlin.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment la Pologne qui l'avait... Enfin, la Pologne, les Polonais, par le courage de leur combat, qui avait fait tomber ce mur, et qui avait fait tomber le communisme. Et ils iraient reconstruire un mur, tout ça pour 3000 personnes à la frontière et 7000 en tout, dans toute la Biélorussie. Enfin, on est tombé sur la tête. Ça n'a pas de sens.
Il n'empêche que l'Europe se crée sur la question des migrants, c'est ce qui occupe beaucoup la campagne présidentielle en ce moment. Quel est le regard là, de vos collègues eurodéputés, cette obsession française de l'immigration, l'identité?
Bon, elle n'est pas que française. Hélas, elle n'est pas que française. On la retrouve à des degrés divers dans à peu près tous les pays de l'Union européenne. Mais pour en revenir vraiment à la France elle-même, vous savez, vu... C'est pas très loin, Bruxelles. Mais même vu de Bruxelles, 1h30 de Thalys ou 1h40, on ne peut pas comprendre. Parce que de l'étranger, on regarde les chiffres de l'économie française. Mais écoutez, ils sont plutôt meilleurs que ceux de l'Allemagne. Je ne dis pas que l'économie française soit en meilleure forme que l'économie. Mais enfin, en ce moment, là, en ce moment, les chiffres sont plutôt meilleurs que ceux de l'Allemagne. La France est... tout sauf dans une situation catastrophique. La France, grâce à la politique... qui peut être critiquable d'ailleurs pour l'avenir, mais ça c'est un autre débat. Grâce à la politique de quoi qu'il en coûte, bah, finalement, il n'y a pas eu de casse sociale pendant la période du Covid, ni pour les entreprises, ni pour les salariés. Et les étrangers, nos partenaires européens, regardent cette France. Il y a en ce moment, dans le numéro de cette semaine de l'Économiste, un papier formidable, très court d'ailleurs.
Sophie Péder.
C'est elle, oui, je ne sais pas.
C'est Sophie Péder qui l'a signé, oui.
Bon, pardon, dont le titre est « Blick ist schick », c'est-à-dire la morosité est chic, ou faire la gueule, c'est chic. En vérité, la bonne traduction, c'est faire la gueule, c'est chic. Et elle se demande, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont, ces Français? Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces Français? Elle apporte quelques éléments de réponse qui sont très intéressants, mais que moi, je résumerai de la manière suivante. Nous sommes des mégalomanes. Nous sommes des mégalomanes, et dans la mesure où ne supportons pas d'être la première puissance du monde, d'être le centre de l'attention internationale, les plus beaux, les plus machins, etc., alors, voilà,
on s'invente des problèmes.
Tout est fini, on s'invente des problèmes, on va se casser la gueule, on est mort, etc. Mais non, on n'est pas mort du tout. Je peux encore deux phrases?
Oui, deux phrases.
Deux phrases, vraiment. Regardez une chose. Dans l'Union européenne, aujourd'hui, le tabou sur la défense est tombé, la défense commune. Mmh. Le tabou sur les investissements communs est tombé. Dieu sait que c'était un tabou. Le tabou sur les politiques industrielles est tombé. C'est-à-dire que... Les politiques, les idées pour l'Europe que la France défendait depuis le général de Gaulle, eh bien aujourd'hui, elle triomphe. Et alors, c'est fini, la France n'existe plus. C'est la France qui donne le là dans l'Union européenne aujourd'hui. J'ai pas dit Macron, hein.
Depuis,
la France qui donne le là et nous n'existerions plus. Je comprends pas. Si on vous prend à vous à Paris.
La France qui va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du mois de janvier. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. On a plus 5, Bernard. Mohamed, votre story du jour. Son travail en Afghanistan avait marqué les esprits lors de la prise du contrôle du pays par les talibans. Vous nous parlez ce soir de la journaliste américaine Clarissa Ward.
C'est l'une des plus grandes reporters dans le monde. Une femme courageuse qui passe son temps sur les territoires de guerre en Afghanistan, en Irak ou encore en Syrie. Clarissa Ward, c'est ça.
From what we can see, and from what we could see, we only had a very limited vantage point. They're firing to disperse the crowds. They're not targeting people. They're not trying to kill people. But of course, the minute you're firing willy-nilly when you have a bunch of civilians all over the road and civilian vehicles, people get hurt.
Clarissa Ward a suscité l'admiration du monde en multipliant les reportages en plein cœur de Kaboul. Elle a assisté au chaos et au chagrin lors de la prise de la ville par les talibans, comptant parmi la poignée de journalistes occidentales encore sur place. Elle sortait dans la rue, vêtue d'un voile noir couvrant son corps et ses cheveux, parfois son visage, mais jamais ses yeux. Elle s'exprime ce soir dans cet à vous au micro de Louis Amar et Michael Robert. Un des directs de cette femme de 41 ans avait bouleverser la planète.
I think the memory that I will never ever forget is seeing this large group of Taliban fighters standing outside the US embassy.
Regardez. On va vous montrer votre reportage ce jour-là.
Okay.
Barely firing a shot.
This is a sight I honestly thought I would never see. Scores of Taliban fighters and just behind us, the US Embassy compound.
Qu'est-ce que ça vous inspire de revoir ça?
You still get this sense of chills because as a journalist, it's pretty rare that you're standing there witnessing history in the making. You can only just start to imagine the seismic impact this is going to have for many decades to come.
La journaliste a été exfiltrée vers le Qatar au tout dernier moment de cette crise. D'autres journalistes sont restés bloqués en Afghanistan. Quelques heures après le départ de Clarissa Ward, deux bombes ont explosé à l'aéroport Hamid Karzai de Kaboul, tuant des dizaines de civils et de militaires. Et pourtant, en Afghanistan, elle ne s'est pas sentie en danger.
Vous êtes une femme, vous êtes journaliste et vous êtes américaine.
Tous les trois.
Est-ce que c'est trois fois plus risqué pour vous d'être en Afghanistan du coup ?
I actually think the fact that I'm an American female journalist with a big Western media outlet gives me a degree of protection. When I look at what Afghan journalists are putting up with at the moment, they have been beaten badly for attending protests. They have been intimidated. They have been threatened because they don't have someone standing up for them in the same way that a very visible Western journalist does.
En 15 ans de carrière, Clarissa Ward a reçu 4 Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour les journalistes. Elle a failli mourir en Syrie et en Irak, mais elle n'a pas peur. Celle qui parle 7 langues ne craint pas les talibans. Quand on lui demande si elle est prête à retourner en Afghanistan, elle ne réfléchit pas.
Bien sûr, toujours. I hope to go back in January. The story that really upsets me and preoccupies me at the moment is the humanitarian crisis. We're seeing children who are starving. We're seeing little girls being sold off, married off at a young age. Hunger has always been an issue, but this winter, it's going to be worse than ever before.
Quand on a demandé à Clarissa Ward ce qu'elle ressentait de voir des gens mourir devant elle, sa réponse était simple, c'est le prix à payer pour être témoin de l'histoire. Bernard Guetta, c'est à l'ancien journaliste que je parle. Clarissa Ward, c'est le symbole de l'utilité des journalistes, des reporters de guerre qui sont indispensables pour nous relayer les drames. Et on le voit très bien en ce moment, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Ben, je crois que vous avez tout dit. J'ajouterais qu'elle est claire, elle est concise, elle est précise. Elle est évidemment courageuse. On la voit, on l'entend, on comprend. Pas tout, évidemment, mais les trois quarts. Et après, on peut comprendre le quart qui reste. Et qu'on ne me dise jamais que les journalistes et le journalisme, ça ne sert à rien. Ce sont les témoins, les indispensables témoins. Alors évidemment, dans le journalisme, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a même des... Bon, enfin bref, des bombes et des très très bons. Mais c'est comme dans tous les métiers. Mais ce métier, il est indispensable. Il est indispensable. Et elle en est la preuve.
Merci beaucoup, merci Mohamed. À tout à l'heure pour la story média. Quand on lui dit moteur, elle devient immédiatement une autre femme. Lynn Renault, chanteuse, meneuse de revue et comédienne, a la popularité immense. Elle compte parmi les 20 actrices françaises les plus bankable du 21e siècle. Le mot est moche. Affreux, mais la réalité est là. Elle totalise parmi les plus grands nombres d'entrées au cinéma depuis l'an 2016, sans parler de la télévision où elle fait à chaque fois carton plein, notamment dans le rôle d'une ancienne reporter de guerre, de retour, pour aider un commandant de gendarmerie interprété par Samuel Labarthe, et elle l'aide à résoudre le meurtre d'une jeune femme, bande-annonce. Extrait.
Comment est-elle morte ?
Une chute. On l'a retrouvée sur un lit de fleurs, les mains croisées, comme pour une cérémonie.
À l'aiguille de rose ?
Oui.
La montagne ne pardonne pas, vous savez.
Si vous avez quelque chose à cacher...
J'essaie de garder un secret, quand même.
Inutile de l'enfouir.
Elle sait à peu près tout sur tout le monde, je me trompe.
La montagne finit toujours par faire jaillir la vérité.
Il paraît qu'elle en sait déjà un paquet sur vous.
Je me suis piégé. Vous connaissez d'autres choses sur moi que j'ignore, peut-être ?
Inédit. Là-haut, tout se dit à voix basse. Meurtre dans les Trois Vallées, avec Lynn Renault et Samuel Labarthe, samedi à 21h05 sur France 3.
Il était notre patron.
Bonsoir Lynn, vous avez entamé une conversation avec Pierre ?
Oui, il était notre patron il y a peu de temps, il y a 4 ou 5 ans.
Au Théâtre Marigny.
Au
Théâtre Marigny, on jouait
ensemble. Très chère Mathilde, ils étaient les deux stars de cette pièce qui a eu un immense succès.
Samuel Labarthe, Lynn Renault. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, ma chérie.
Bonsoir, Lynn. Bonsoir, commandant Labarthe.
Bonsoir, Patrick.
On est heureux de vous accueillir à l'occasion de ce nouveau meurtre où vous reprenez, chère Lynn, le rôle de Gabriel Fendras, familier des téléspectateurs de France 3 depuis le meurtre à Bride-les-Bains qui avait réuni 5 millions de téléspectateurs.
Ouf.
Bah oui, ça vous donne le vertige, hein.
Oui, oui, oui. Ça fait beaucoup de monde.
Mais mieux ne vaut pas y penser, sinon vous seriez presque pas capable de tourner.
Oui, oui, il vaut mieux pas y penser. Mais j'aime tellement tourner que je tournerai quand même.
Je pensais pas que vous étiez du genre à avoir le trac, Lynn Renault, et même avoir peur du direct. C'est pas comme si vous aviez fait quelques heures de direct
non,
dans
mais
votre vie.
C'est drôle parce que j'ai toujours le trac et pourtant, je suis en train de réfléchir dans la voiture. Le direct, on a tellement fait de direct. Les émissions autrefois, tout était en direct. Et quelquefois, il y avait des gaffes incroyables, surtout avec Jean Noin.
Alors,
ça, c'était le roi de la gaffe, Jean Noin.
Mais il faut expliquer ce qui se passait. Vous n'étiez pas prêt, il pensait qu'il lançait Yves Montand.
Oui, oui. Alors, donc, il doit annoncer Yves Montand. Et là, il annonce Yves Montand. Et c'est un éléphant qui en fait. Et pour moi, il devait m'annoncer dans... Là, il y avait la Madelon.
Ouais.
Et donc, il annonce Madeleine Renaud. C'était ça, Jean Noin.
Oui, il y a quelques héritiers de Jean Noin sur ce plateau.
Il avait 36 chandelles.
Suivez mon gars.
36 chandelles.
Samuel, l'énergie de Lynn vous bluffe ?
Ah bah oui, ça, moi je signe tout de suite. Hein, parce que même pour le quart... Parce que sur un plateau, c'est impressionnant. Elle rentre comme ça, toute discrète, etc. Mais on dit moteur et c'est, voilà, ça s'allume. Tout feu dehors, tout feu, tout flamme. C'est impressionnant. Et c'est vrai que sur le plateau, il y a toujours eu une ambiance décline arrive. Voilà, ça s'allume. Tous les yeux s'allument, les caméras, les projecteurs, tout s'allume.
Lynn, vous dites que... Oui, pardon.
C'est le mot moteur qui me fait passer.
Ah oui. Serge, je vous
moteur,
dis moteur.
Moteur, hop, je suis prête.
Moteur, Lynn.
Moteur.
Vous dites que Samuel est un peu votre fils. Vous en avez quelques-uns des enfants. Hein. Danny Boone, oui. Samuel, Muriel Robin. Lequel est le plus insolent, le plus capricieux, le plus difficile parmi ses enfants ?
Lequel est ?
Et le plus capricieux, le plus difficile, le plus insolent parmi tous ces enfants-là que vous avez ?
C'est peut-être toi.
Ah bah tiens.
Ça y est, j'en ai pris une. Je viens d'en prendre une en direct.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que vous trouvez Samuel un peu trop modeste. C'est votre côté suisse, Samuel ?
Je ne sais pas, c'est mon côté tout court. Je ne sais pas si ça a de la nationalité, la modestie ou je sais pas, ou l'humilité. Non, je m'en réclame. J'aime bien être comme ça.
Il a tellement de talent.
Il a réussi plutôt. Hein.
Samuel a tellement de talent. J'ai joué toute une saison avec toi. Et il est tellement formidable, tu le sais, sur scène que... Je le trouve trop modeste.
Mais oui.
Voilà.
J'ai bien fait de venir. Hein.
Alors que Samuel est quand même, entre autres, la voix française de Georges Clooney.
Oui.
Ça, on ne le dit pas assez.
Oui.
Et surtout, vous pensez qu'il est le nouveau Belmondo ? Eu égard aux cascades qu'il réalise, justement, dans le téléfilm de demain soir.
Ah oui, vous me dites...
Alors, les cascades... Tu fais, là.
Oui. quand tu es revenu, tu m'as dit, tu sais, j'ai fait les cascades. Ouais. Elles étaient... C'est fou.
Oh, bon, il y avait un petit rappel à faire avec un torrent en dessous. Non, c'était pas ça le plus terrible. C'est la Via Ferrata que j'ai fait le lendemain avec le guide. Alors là, en revanche, c'est autre chose.
Mais c'est la Savoie, ce que c'est beau.
Ah oui.
On a découvert la Savoie avec Bride, meurtre à Bride. Ça, c'était donc le printemps. C'était magnifique. Et on l'a découvert l'hiver avec meurtre.
Oui, vous avez tourné dans le froid. Des fois, le matin, tout était gelé. Hop, fallait changer le plan de travail. Oui. Hélène, vaillante, qui grimpait en haut des pistes, sur les sommets, sans jamais se plaindre. C'est un rôle physique aussi que vous avez, Samuel Labarthe, dans ce téléfilm. Vous avez eu d'autres rôles, un peu moins physiques, avec un peu moins de cascades, mais avec un appel historique.
Le dernier mot est-il dit ?
L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !
De Gaulle, vous l'avez interprété, c'était votre Everest à vous, Samuel Labarthe ?
Oui, c'est vrai que l'air est raréfié. Hein. Il faut pas mal de bonbonnes d'oxygène, de beaucoup de Sherpa qui vous suivent, parce que c'est une fois dans sa vie qu'on fait une chose comme ça. Pas deux, mais c'est... Voilà.
Avec le souci de ne pas tomber dans la caricature, parce que tout le monde limite le général de Gaulle. Et beaucoup le citent en ce moment.
Beaucoup, hein. J'ai entendu des petites choses comme ça, pas très intelligentes. Mais bon, c'est comme ça. C'est une stature de commandeur, effectivement, on n'a pas envie de se tromper. Mais on présentait aussi l'intimité du général. Et ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de documents et de livres qui ont raconté ça. Donc on avait le personnage public et le personnage privé. C'était assez joli d'aller dans le privé avec lui.
De Gaulle, vous l'avez connu, Line ?
Non.
Vous avez connu tous les présidents depuis Vincent Auriol.
Non, mais vous me faites mal, là. Moi, je m'en veux pas parce que c'est vraiment... J'étais très liée avec Pierre Lazareff. Il suffisait de me dire « Pierre, présente-moi De Gaulle » et ça se serait passé. Mais De Gaulle, pour moi, je n'osais pas.
Vous étiez intimidée par De Gaulle.
Oui, j'étais tellement intimidée par lui, c'était mon idole. J'avais 12 ans, j'entendais mes parents, il va venir nous délivrer, c'est lui qui va nous délivrer. Et donc, pour moi, De Gaulle, c'était...
Et puis Lillois, tous les deux.
Oui.
Et vous êtes une gaulliste, mais de gauche. C'est comme ça que vous vous définissez, Line.
Oui, je peux être ça. D'ailleurs, De Gaulle était un peu de gauche.
Comme Chirac.
Mmh.
Line, un mot sur vos combats, le SIDAction, mais aussi la recherche médicale. Vous avez remis lundi soir le prix Line Renaud Loulou Gasté pour la recherche médicale. À cette occasion, vous avez même réussi à faire rougir Olivier Véran en lui disant qu'il était très beau.
Je lui ai dit, il est encore plus beau qu'en vrai.
Il paraît qu'il a mis toute la soirée à s'en remettre. Line, votre dernier combat, dites-vous, ce sera pour une fin de vie choisie, le droit de mourir dans la dignité.
Oui.
C'est un combat qui vous tient à cœur.
Oui, c'est mon prochain combat. Parce que, d'abord, ma mère demandait à partir et je ne pouvais rien faire. Elle souffrait tellement. Ensuite, c'était Loulou. Pareil, la même chose. Je disais, quel courage tu as, qu'on dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Donc, et là maintenant, quand je vois que les gens souffrent alors qu'on sait que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, il faut partir avant. Il faut partir. Mais d'ailleurs, c'est dans le prochain...
Je ne peux pas le dire.
Vous allez monter un téléfilm.
Non, pas le téléfilm. Non. C'est dans le programme du président.
Ah, voilà. Ah. Alors, c'est un scoop, alors.
Vous avez dit qu'il ne fallait pas la pousser. Bon, voilà.
Line, merci de nous faire confiance. Donc, c'est dans le programme du président qui va se présenter.
Ça reste entre nous, Line.
Il vous l'a dit que ce serait au programme de débattre autour de la question de la mort dans la dignité.
De mourir dans la dignité.
Et vous êtes...
Quand c'est l'heure, c'est l'heure.
Et vous êtes heureuse que cette question soit débattue et qu'enfin, ça devienne possible en France.
Oui. Ça se fait en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Alors, pourquoi pas chez nous ?
Et vous avez le soutien de Brigitte Macron, j'imagine, dans ce combat-là ?
Oh oui, 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 oui.
Line, vous avez été la marraine de la leader, la figure de trois générations de comédiens, trois ou quatre générations de public. Vous avez été la marraine de Johnny Hallyday, on se souvient de cette archive où vous le présentez au public de la télévision et de l'unique chaîne de l'époque. Il ne répond par oui ou par non et ça vous fait rire. Mais moi qui suis de la génération des débuts du rock, mon idole c'est Presley. Et je voudrais savoir ce soir si c'est vraiment vrai ou si c'est une légende que quand vous chantiez un soir à l'Olympia, Elvis est venu dans votre loge et qu'il a chanté une partie de la nuit.
Ça, c'est une légende, parce que c'était pas l'Olympia.
C'était où?
C'était au Casino de Paris.
C'était pas très loin. Et c'est vrai.
C'est vrai. Il était avec trois soldats américains et une ouvreuse est venue nous dire « Elvis Presley est dans la salle ». Loulou est allé lui parler et à la fin du spectacle, il est venu dans ma loge, il voit une guitare. Alors, il demande à prendre la guitare et j'avais le Golden Gate Quartet.
Le fameux quartet de gospel.
Voilà, le gars. Et là, Elvis dit « Est-ce que les Golden sont encore là ?» On les a fait descendre. Jusqu'à 6 heures du matin, j'ai eu le plus beau concert qu'on puisse imaginer avec Elvis et le Golden Gate Quartet.
Mais pourquoi vous n'aviez pas de portable à l'époque?
Mais pas de portable, pas de télévision, rien.
Rien.
Mais c'est là. Oui. C'est là et pour toujours. Et alors, on est sorti, il était 6 heures du matin, le jour dehors, et Elvis me dit, je dis que je vais aller à Las Vegas dans 2 ans, et il me répond, « I will be at your opening. Oh. » Et c'est pas sous de le dire, il était à mon opening.
Oh.
Ouais.
Oh. Ouais. Il a tenu parole.
Oui, il a tenu parole. Je serai à votre première, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais.
Ah ben oui, je vous remercie de traduire. « I will be at your opening. »
Non, mais Elvis était très, très simple, très gentil, adorable. Et donc, il n'était pas heureux.
Ouais. Vous êtes bluffant.
Il y a une notoriété qu'il ne faut pas atteindre.
Ah, vous pensez?
Ah oui, franchement.
C'est trop?
Ah oui. Il ne faut pas être Michael Jackson. Il ne faut pas...
Mais Lynn Renault, on peut être Lynn Renault?
Oui.
ça va. Lynn Renault qui va encore faire un carton plein demain sur France 3. Meurtre dans les Trois Vallées avec Samuel Labarthe dans le rôle du commandant de gendarmerie que vous allez aider en restant quand même un peu petite mystérieuse. Oui, voilà. Et c'est passionnant de vous suivre dans les Trois Vallées. Un téléfilm que vous avez tourné pendant le Covid, où il fallait mettre le masque, l'enlever, vous faire tester je ne sais combien de fois, mais rien n'arrête cette femme, rien n'arrête Lynn Renault. C'est demain soir sur France 3 à 21h05. Vous restez avec nous, Lynn?
Oui, si vous voulez.
Ah bah, moi, ça me va. On va juste avoir un petit problème de place parce que Mathieu Béliard va vous piquer la place, Samuel. Merci.
Voilà, le je te laisse, mais t'es en bonne compagnie.
Ah, vous inquiétez pas, Aline.
Salut, Samuel.
Salut, Pierre.
Salut, Samuel. Au revoir. Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5
de Mathieu Béliard.
Au revoir, mon
général.
Et à très vite. Bonsoir, ma bête. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Samuel Labarthe pour la place.
C'est la place du général, hein.
N'est-ce pas?
Donc, on commence avec le dossier de la pêche qui empoisonne les relations franco-britanniques.
Oui, c'est l'accord du Brexit qui le dit. Les pêcheurs français pourront continuer à pêcher dans les eaux anglaises s'ils y pêchaient déjà avant. Bras de fer, on vous l'a raconté, désaccord sur le nombre de licences. Souvenez-vous du ton employé du côté du gouvernement.
Les choses sont claires et nous l'avons déjà dit. Nous ne laisserons pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord Brexit qui a été conclu.
Ce n'est pas la guerre, c'est un combat. Les Français et les pêcheurs ont des droits. Il y a eu un accord de signer. Nous devons faire appliquer cet accord.
La balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement, de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place.
Et donc à partir du 2 novembre, c'est terminé. Il faut parler le langage de la force parce que je crains que malheureusement, ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela.
Mais hier, la ministre de la Mer, Annick Girardin, a annoncé un plan de sortie de flotte, concrètement une indemnisation pour les pêcheurs qui n'obtiendraient pas de licence, une prime à la casse pour les bateaux qui ne pêcheraient plus. Proposition qui a sérieusement énervé les pêcheurs de la Manche.
où nous a dit « on s'occupe de vous, tenez bon, restez calme », ce que l'on a fait. L'État français baisse les armes et on nous parle de mise à la casse de notre bateau.
Entre le 1er avril et le 31 décembre, nous sommes dans les eaux anglaises et ça représente quelque peu 60 à 70% du chiffre d'affaires. Là, j'en suis à moins 40%.
Alors, il n'y a qu'à abandonner nos bateaux et on donne du pognon. Et on fait quoi, nous, après changer de métier, à 50 balais, j'ai changé de métier. Tous mes potes, tous mes collègues, c'est la même chose. On va faire quoi, nous? Qu'est-ce qu'on va devenir?
Nous, on va pas se laisser crever comme ça. On va pas accepter leur chèque. On veut continuer à travailler comme on le faisait il y a encore 3 semaines. Et on va pas se laisser faire.
Réponse à cette colère aujourd'hui. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, non, la France ne recule pas. Autre réaction très ferme dans la foulée, celle du président.
Premièrement, je serai exigeant avec la Commission pour qu'elle nous défende. Deuxièmement, si la Commission ne joue pas son rôle, la France le fera. Troisièmement, ce qui a été annoncé par la ministre, c'est que comme on joue avec nos nerfs et qu'on prend du temps, nous continuerons d'accompagner nos pêcheurs. Parce qu'on ne peut pas faire reposer sur nos pêcheurs l'attente des licences ou d'une reprise d'activité. Ce ne serait pas juste. Donc le rôle de l'État, c'est de les accompagner, de les protéger aussi longtemps qu'on négocie pour obtenir simplement le respect des accords signés.
Alors, on le sait que c'est un dossier compliqué, cet accord de Brexit. On sait que la pêche était l'un des points les plus compliqués à régler, à négocier.
Avec l'Irlande, oui.
C'est de la faute de Michel Barnier, tout ça?
Mais non.
C'est ce que dit Patrick.
Mais d'accord. Mais si ce n'était que Michel Barnier, ce serait simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on est entré dans une phase de dégradation générale de nos relations avec la Grande-Bretagne. Alors, dans cette configuration-là, est-ce qu'on en rajoute de l'huile sur le feu, ou est-ce qu'on est sage et est-ce qu'on attend la possibilité de réellement trouver un compromis? Je pense que la deuxième solution est la meilleure, même si elle n'est pas la plus flatteuse.
On verra la suite. Patrick est rétréci, je ne sais pas ce qui s'est passé.
On m'a changé de chaise, donc je suis descendu 5 cm, voilà, c'est tout.
Fin de la blague. Le petit Patrick.
Là, c'est le petit Patrick qui est avec nous ce soir.
C'est comme ça, on est en pénurie de chaise.
Non, là, oui, parce que le sujet...
Pardon. On a fou rire en plateau, c'est normal, c'est ça. Ça
ah oui, on va parler c'est les joies du direct, voilà.
Je reprends la main si vous voulez, Babette.
Jeanne Noël, allons-y.
On va parler d'un sujet qui est un peu grave, donc je reprends la main, comme ça on n'a pas de transition à chercher. L'association L'Enfant Bleu qui appelle à ce que la protection de l'enfance devienne une grande cause nationale. D'abord, pour commencer, je vous propose de regarder le spot qui va passer partout à partir de ce week-end et que nous dévoilons dans C'est à vous ce soir.
Bonsoir Isabelle Debré.
Bonsoir.
Présidente de l'Enfant Bleu, Mohamed nous a rejoint parce qu'il est le parrain de votre association depuis 2 ans déjà. Ce genre de clip, c'est difficile de trouver le ton juste parce que la réalité est difficile, voire insupportable. Il faut la suggérer, pas la montrer. Il faut choquer, il faut faire prendre conscience.
Alors d'abord, c'est vrai que c'est très difficile et je tiens vraiment à remercier Havas Sport Entertainment qui a fait ce film, qui nous a offert ce film. Nous l'avons fait ensemble, bien sûr, et l'Enfant Bleu n'a jamais voulu montrer des choses dures, difficiles, un enfant battu, non. Mais tout est dans la suggestion. Et l'objectif de ce film, il y a 2 objectifs. Le premier, faire prendre conscience à tous les Français qu'ils ont un rôle à jouer et que dès qu'il y a un doute, il faut alerter, non pas dénoncer, mais alerter pour sauver un enfant. Mohamed en parlera, puisqu'il a été très aidé par ses voisins, et je crois que c'est très important. Le deuxième objectif de ce film, c'est de faire connaître l'Enfant Bleu et le 119, que nous avons associé au film, pour que les enfants sachent à qui s'adresser lorsqu'il y a un problème. Et puis, un troisième objectif, c'est effectivement, et j'en profite pour remercier tous les gens qui nous aident, parce que nous avons un afflux énorme de demandes et que, bien sûr, on fait appel aussi à la générosité de tout le monde, parce que nos psychologues sont des psychologues formés au psychotraumatisme, donc des professionnels. que l'on rémunère, bien sûr. Nos juristes aussi sont des professionnels, donc nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Et ça me permet aussi de remercier tous nos donateurs, les sponsors, les sociétés qui nous aident. Voilà,
et qui s'engagent auprès de vous dans cette cause.
Bien sûr.
Vous évoquiez, Mohamed, vous venez de raconter, Mohamed, votre enfance dans un livre, votre enfance sous les coups. Un témoignage extrêmement fort sur votre vécu entre 0 et 8 ans.
C'est ça, parce que entre 0 et 8 ans, j'ai vécu sous l'emprise d'un papa violent. J'ai pas de souvenirs en dessous de 5 ans, puisqu'on parle d'amnésie traumatique dans ces cas-là. Mes premiers souvenirs que j'ai, c'est de voir ma mère se faire battre par mon père. C'est vers 5 ans. Et à 5 ans, mon père a commencé à me taper violemment dans mes souvenirs, mais ma mère m'a expliqué ensuite que ça a été le cas souvent auparavant. Et ma seule crainte à ce moment-là, ce n'était pas forcément de penser à moi, mais de penser à ma mère. Et mon seul rêve, c'était qu'elle ne meure pas chaque jour. Et donc, vers 5 ans, j'ai compris que quand je lançais dans les jambes et dans les genoux de mon père, il arrêtait de taper ma mère pour me taper moi. Et donc, il a continué jusqu'à 8 ans et demi. Il est parti en 2001 et il nous a abandonnés.
Parce que c'est ce que vous soulignez, il y a le rôle des voisins qui est essentiel, évidemment, Isabelle. Mais dans le livre, on comprend bien aussi le sentiment de culpabilité de ces enfants qui sont victimes.
On se sent coupable parce que c'est des liens chimiques. J'ai souvent pensé qu'il allait avoir un déclic, que si j'étais un enfant gentil, il allait changer du jour au lendemain. Je me suis souvent dit, si je me calme, si je suis gentil, si je lui fais des bisous, il va changer. Et finalement, ce n'est jamais arrivé parce qu'on se dit souvent, quand on est enfant, qu'on a envie d'avoir un papa et un maman comme Samuel et Léa, les copains de la maternelle. Et finalement, on se dit qu'on aimerait avoir juste un papa qui nous aime. Et finalement, je n'ai jamais eu de réponse à ça, hormis les coups.
Et Isabelle Debré, vous le disiez, on peut tous agir, évidemment, tous intervenir. D'autres personnalités s'emparent de cette question. L'enfance, regardez cette vidéo de Jamel Debbouze.
Un enfant ne devrait pas se préoccuper de son droit à la santé, à l'éducation ou à la protection. Un enfant devrait simplement penser à courir, danser, chanter et rire à gorge déployée. C'est tout. Ce week-end, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT se mobilisent dans une grande campagne et vous invitent à rejoindre les défenseurs de l'enfance. Stop à la hagra, à l'humiliation et à la violence. Plus on sera nombreux à jouer notre rôle d'adulte, plus seront nombreux à jouer leur rôle d'enfant. Alors si un enfant autour de vous est en danger, appelez le 119.
Ça, Mohamed, c'est le spot qui annonce un événement que vous organisez ce week-end, un tournoi de foot au Stade de France.
Oui, c'est un tournoi de foot pour 240 enfants et 50 éducateurs. Et donc, ça permet à ces enfants de...
On va aller voir... Momo, on va voir ces gamins justement. Parmi eux, il y a un jeune garçon qui a 13 ans, Yo-Yo. Il a répondu à France Inter après avoir déjà rencontré des joueurs du PSG. Écoutez un petit extrait de son témoignage.
Yo-Yo, victime de violences graves, retrouvé pieds nus dans la rue, dit avoir la tête dans les étoiles. Il a déjà pu approcher ses idoles, les stars du PSG.
Je ne croyais pas que j'allais voir un jour des joueurs de près comme ça. Je ne croyais jamais que ça allait devenir réaliste. Ça m'a foudroyé.
Ça veut dire quoi, ça m'a foudroyé?
Bah, ça m'a réveillé dans ma vie. Ça a fait comme un ting dans ma tête.
Quelqu'un m'a dit que tu avais carrément parlé à Mbappé.
Oui, je lui ai dit un truc dans l'oreille.
Qu'est-ce que tu lui as dit?
Je lui ai dit, Mbappé, quitte pas le PSG, t'es trop fort.
Ce petit moment a changé quoi?
Ma vie. Ça a pétillé en moi.
Moi, je peux témoigner juste d'une chose, c'est que ça fait des semaines et des semaines que Mohamed passe des coups de fil pour avoir des paires de chaussures pour les gamins, des prothèses tibias, on en rigole un petit peu avec lui. Isabelle, vous avez besoin de ce genre de parrain, évidemment.
Évidemment, c'est un exemple, Mohamed, c'est un exemple. Ça prouve que vraiment, même quand on a été au plus mal, on peut rencontrer Mbappé, on peut interviewer Mbappé. Donc c'est un message d'espoir extraordinaire.
Et puis on peut devenir Mohamed Bouabsi aussi.
Mais bien sûr, mais c'est lui qui interviewe. Et je veux dire, c'est extraordinaire. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on peut avoir eu une enfance terrible et puis interviewer Mbappé quelques années plus tard. Donc c'est un exemple formidable. Et nous, l'avoir comme parrain, c'est un vrai bonheur.
Lynn, vous connaissiez Mohamed Bouabsi?
Bonjour.
Nous, on est très fiers de le compter dans l'équipe, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, demain, le Stade de France, on soutient l'enfant bleu. Merci, cher Bernard Guetta, d'être venu ce soir.
Merci à vous.
Merci, chère Lynn.
Merci.
À demain, 21h sur France 3.
Moi, je vous écouterai.
Ah bah oui, nous, on sera là. Hein. On est là, quoi qu'il arrive.
Merci.
Toujours en direct. Merci, chère Lynn. Dans un instant, spécial Bretagne. Dans C'est à vous, avec Alan Stivell, Yves Coppens et Laurent Deutsch. Et nous, on est en Marinière avec Marion pour l'événement. À tout de suite.